VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 13 août 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, les Zambiens dans l'attente des résultats des élections. Le président sortant Edgar Lungu et son opposant historique Hakainde Hichilema sont au coude à coude pour la présidentielle. En Tanzanie, la défense de l'opposant Freeman Mbowe dénonce une interférence du pouvoir et demande sa libération. En Afghanistan, les talibans enchaînent les conquêtes territoriales. Les Américains et les Britanniques évacuent leurs ressortissants. Ici aux États-Unis, c'est un renversement démographique historique. Le dernier recensement évalue à 61,6% la population blanche contre 72,4% il y a 10 ans. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Le décompte des voix se poursuit en Zambie au lendemain des élections générales tendues, mais émaillées de peu d'incidents. Le président sortant Edgar Lungu et son opposant historique, Hakainde Hichilema, sont annoncés au coude à coude. Le point avec Jacques Aristide.
Les résultats de la présidentielle, mais aussi des législatives et municipales, devront être connus d'ici dimanche soir. Le dépouillement, à valeur de test démocratique dans ce pays, qui gère généralement les transitions politiques en douceur. L'écart entre le chef de l'État sortant, Edgar Lungu, 64 ans, et son infatigable rival, qui se présente pour la sixième fois, Hakainde Hichilema, 59 ans, n'était que d'un peu plus de 100 000 voix en 2016. Il pourrait être encore plus serré, croient savoir les sondeurs. Les électeurs se sont mobilisés paisiblement hier, faisant parfois très longtemps la queue pour exprimer leur choix. Des heurts ont toutefois été signalés dans la province du Nord-Ouest, un bastion d'Hichilema, où deux personnes, dont un responsable du parti au pouvoir, le Front Patriotique, ont été tuées, a annoncé le président hier soir, accusant le parti de son rival. Mais le Parti Uni pour le Développement National s'est distancié de ces incidents meurtriers, accusant le pouvoir de tenter ainsi de faire diversion. La commission électorale zambienne a ouvert une enquête. Le parti au pouvoir avance également que certains de ses partisans ont été agressés et chassés des bureaux de vote dans le sud du pays.
En Tanzanie, l'avocat du principal leader d'opposition Freeman Mbowe a demandé l'abandon des poursuites pour terrorisme contre son client. Il dénonce une interférence du pouvoir après de récents propos de la nouvelle présidente. Les précisions de Rosine Monezero.
Dans sa déclaration, Maître Peter Kibatala dit avoir déposé une requête demandant l'abandon des charges et l'annulation du procès. Il accuse implicitement la présidente Samia Suluhu Hassan de s'être mêlée de l'affaire. Dans une interview à la BBC publiée en début de semaine, la présidente a assuré que les accusations portées contre Freeman Mbowe n'étaient pas politiques et résultaient d'une enquête de près d'un an. Avec de tels propos, nos clients se sentent déjà condamnés, a affirmé Maître Kibatala. Freeman Mbowe devait comparaître vendredi devant le tribunal de Kisutu à Dar es Salaam pour financement du terrorisme et complot terroriste. L'audience a finalement été reportée au 27 août. Monsieur Mbowe n'ayant pu être transféré de la prison en raison de problèmes de transport, a déclaré son avocat. Le dossier est en cours de transfert vers une cour supérieure. Freeman Mbowe, 59 ans, a été arrêté fin juillet avec d'autres figures du parti Chadema après avoir appelé à un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles.
République démocratique du Congo, l'ONU a dénoncé aujourd'hui les actes de violence sexuelle généralisée et systématique dont des viols collectifs perpétrés par des groupes armés dans la province du Tanganyika où des milliers de personnes ont été déplacées. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés demande aux autorités de faire le nécessaire pour que des enquêtes soient lancées et que les responsables soient traduits en justice. L'Organisation mondiale appelle les autorités à renforcer de toute urgence la sécurité dans la zone dénommée Triangle de la Mort qui borde plusieurs localités entre les provinces du Tanganyika, du Maniema et du Sud Kivu afin de protéger les civils. Au Cameroun, la garde à vue prolongée à Douala de Rebecca Enochong, célèbre femme d'affaires pour outrage à magistrat, a provoqué une avalanche de réactions dans le pays et sur les réseaux sociaux où le hashtag Free Rebecca est devenu viral. Rebecca Enochong est retenue depuis mardi à la gendarmerie de Douala. On lui reproche d'avoir injurié le procureur général de Douala et d'avoir commis un outrage à magistrat, d'après son avocat, Maître Sylvain Oum. Seul un cas du virus de Marburg a été détecté pour l'instant en Guinée, mais l'OMS insiste sur l'importance de surveiller les 150 cas contacts qui sont dans la période critique d'incubation. Des dépistages des cas suspects sont également en cours, tandis que les efforts se poursuivent pour retrouver les personnes qui ont pu être en contact avec le patient, a indiqué une porte-parole de l'agence sanitaire à Genève, Fadela Chaib, lors d'un point de presse. La surveillance transfrontalière a été renforcée. L'Union africaine a annoncé l'ouverture d'une enquête interne après la publication aujourd'hui sur son compte Twitter d'un message attaquant la directrice de l'agence américaine d'aide humanitaire USAID qui appelait au dialogue pour mettre fin au conflit dans la région éthiopienne du Tigré. Il répondait à la directrice de l'agence américaine d'aide internationale, Samantha Power, qui avait relayé un message du conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, annonçant la venue d'un émissaire américain en Éthiopie et appelant toutes les parties du conflit au Tigré à venir d'urgence à la table des négociations. 13 djihadistes présumés ont été tués lors d'affrontements avec l'armée dans le Sinaï, dans l'est de l'Égypte. La péninsule du Sinaï est en proie depuis des années à une insurrection armée et l'armée égyptienne annonce régulièrement des morts dans les combats. 9 soldats égyptiens ont par ailleurs été tués ou blessés dans l'opération. L'enclave espagnole de Ceuta a entamé aujourd'hui l'expulsion vers le Maroc de quelques 800 migrants mineurs non accompagnés, arrivés très nombreux au mois de mai. Ce renvoi de ces jeunes intervient 3 mois après leur arrivée, parmi près de 10 000 migrants qui avaient franchi la frontière en 2 jours au nord du Maroc, un afflux sans précédent. L'ONG Save the Children a annoncé qu'elle va porter plainte pour tenter de suspendre ces expulsions controversées.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les talibans ont continué leur progression en Afghanistan. Les États-Unis et le Royaume-Uni évacuent en catastrophe leurs derniers ressortissants et diplomates face à la menace qui pèse maintenant sur Kaboul, la capitale. Le point avec John Lydon.
Les insurgés se sont emparés vendredi de la ville de Puelam, capitale de la province du Logar, à 50 km au sud de Kaboul. Ils avaient déjà pris Lashkargah, capitale de la province du Helmand, dans le sud, quelques heures après avoir fait tomber Kandahar, la deuxième ville afghane à l'est du pays. Les talibans ont aussi pris sans résistance vendredi Chakchahrang, capitale de la province du Gore. Ils contrôlent désormais près de la moitié des capitales provinciales qui sont toutes tombées en 8 jours. Kaboul, Mazar-i-Sharif, la grande ville du Nord et Jalalabad sont les seules grandes villes encore sous le contrôle du gouvernement. Washington a annoncé hier soir avoir décidé de réduire encore davantage sa présence diplomatique à Kaboul et envoie 3 000 soldats pour sécuriser l'aéroport de Kaboul pendant l'évacuation des derniers Américains. Parallèlement, Londres redéploie 600 militaires pour aider au départ des ressortissants britanniques. Les pays de l'OTAN se réunissent en urgence vendredi à Bruxelles et l'évacuation d'Afghanistan sera au cœur des discussions.
L'OTAN soutiendra le gouvernement afghan autant que possible et va adapter sa présence diplomatique, a annoncé aujourd'hui son secrétaire général Jens Stoltenberg à l'issue d'une réunion avec les ambassadeurs de l'Alliance à Bruxelles après la décision de Washington et de Londres d'évacuer l'Afghanistan. Mais aucune décision n'a été prise au cours de cette réunion. Les échanges sur la situation ont été réalistes et la communication du secrétaire général vise à éviter le sentiment d'un sauve-qui-peut, a expliqué l'un des participants. Ici aux États-Unis, le nombre d'habitants se définissant comme blancs a baissé pour la première fois selon le dernier recensement qui montre un pays bien plus multiracial et plus urbain que 10 ans plus tôt. Les détails avec Nani Talani.
Le Bureau américain du recensement a précisé que la population blanche reste le plus grand groupe racial ou ethnique aux États-Unis. Elle a uniquement diminué de 8,6% entre 2010 et 2020, mais c'est une première depuis les premiers relevés en 1790. Les blancs représentaient 204 millions d'habitants l'an dernier, soit 61,6% des Américains, contre 72,4% une décennie plus tôt. Les Africains-Américains sont 41 millions, soit 12,4% de la population, un pourcentage stable sur 10 ans. Les Asiatiques sont environ 20 millions, soit 6% des Américains. Les Latinos et Hispaniques ont connu une hausse de 23%, soit 62 millions, et les Amérindiens, 1,1%. Le recensement décennal est essentiel pour déterminer le découpage électoral des 50 États américains et l'allocation des fonds fédéraux pour les écoles et les hôpitaux. Son impact en politique sera déterminant puisqu'il permet de décider combien de sièges attribués à chaque État à la Chambre des représentants.
Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Rosine Moudizero.
En Guinée, le gouvernement annonce un accord avec le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement en faveur d'un prêt de 26 millions de dollars américains pour la construction des échangeurs de Bambeto et Kossa. Ce projet de modernisation du réseau routier urbain permettra à terme de réduire considérablement la congestion dans le centre-ville tout en reliant les zones urbaines clés faisant partie intégrante de la croissance économique. Le coût global du projet est de 104 millions de dollars. Au Niger, après Djado, situé dans le nord-est du pays, région d'Agadez, découverte en 2014, un nouveau gisement d'or vient d'être trouvé à Kouandago, dans le sud du pays, à la frontière avec le Nigeria. En attendant plus de précisions géologiques sur ce nouveau gisement, Maradi devient la troisième région sur huit du Niger à produire désormais de l'or après Tillabéri et Agadez. Au Kenya, Equitel, opérateur de réseau mobile, procède au déploiement de son réseau 4G. D'après les statistiques annoncées, Equitel a enregistré une croissance de 14% des transactions clients au cours du premier trimestre 2021. La valeur des transactions a augmenté de 163%, passant de 1,4 milliard de dollars à fin mars 2020 à 3,8 milliards de dollars une année après. Son lancement intervient dans un contexte de crise sanitaire du coronavirus où les banques développent leur plateforme numérique pour diminuer les transactions physiques.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Les Sénégalais peuvent respirer. Les Lions de la Teranga pourront recevoir leurs adversaires au stade Latte Dior de Thiès dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Les Sénégalais iront au Congo lors de la première journée le 7 septembre et recevront le Togo à Thiès pour la deuxième journée. C'est ce qu'indique le programme communiqué par la FIFA. L'instance mondiale avait suspendu le stade Latte Dior, mais le report des deux premières journées des éliminatoires, initialement prévues en juin, a permis au Sénégal de procéder à la mise à niveau de ses infrastructures, indique le journal en ligne africfoot.com. Le Burkina Faso, lui, recevra ses adversaires au Maroc. Son stade du 4 août étant jugé non conforme à la réglementation. Les étalons joueront ainsi les Fenech le 7 septembre au grand stade de Marrakech. Sergio Ramos, l'une des recrues phares de l'été du Paris Saint-Germain, devrait pouvoir reprendre la compétition en septembre après avoir soigné sa blessure à un mollet, indique son nouveau club. Le retour de l'ancien capitaine du Real Madrid est envisagé après la trêve internationale, c'est-à-dire autour du week-end du 11 septembre, au moment de la réception de Clermont. Ramos n'a toujours pas joué la moindre minute avec le maillot parisien, match amicaux inclus, en raison d'une lésion au mollet gauche. Il va ainsi manquer le match contre Strasbourg samedi, comptant pour la deuxième journée de Ligue 1, tout comme le milieu international sénégalais Idrissa Ganagé, qui a eu le Covid-19 fin juillet. Les débuts de Lionel Messi sont attendus pour fin août. En Angleterre, Raphaël Varane ne jouera pas avec sa nouvelle équipe de Manchester United demain pour son premier match de Premier League contre Leeds. Le défenseur français n'a pas pu compléter en temps utile son transfert au Real Madrid, annonce son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Varane doit encore obtenir un visa et se soumettre à une quarantaine pour respecter les protocoles sur le coronavirus, puis subir son examen médical. Transfert. L'attaquant belge de l'Inter Milan, Romelu Lukaku, s'engage pour les 5 prochaines saisons avec Chelsea, club où il a déjà évolué de 2011 à 2014, annonce la formation londonienne. C'était un long voyage pour moi. Je suis arrivé ici quand j'étais enfant et je reviens avec de l'expérience et de la maturité, a déclaré Romelu Lukaku dans le transfert, selon la presse britannique et italienne, s'élève à environ 115 millions d'euros. Le néerlandais Virgil van Dijk, lui, prolonge son contrat avec Liverpool jusqu'en 2025, annonce le club anglais sur son site internet. À 30 ans, le défenseur central s'engage pour 4 années supplémentaires au sein du club vainqueur de la Ligue des Champions en 2019 et champion d'Angleterre un an après.
Page des sports signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, plusieurs associations se sont retrouvées à la Bourse du Travail de Bamako cet après-midi pour demander une prolongation de la transition initialement fixée à 18 mois. Elles estiment que le temps imparti ne permet pas d'organiser des élections libres et transparentes alors qu'une partie du pays échappe aux autorités. Le reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Des centaines de personnes, en majorité des personnes âgées, se sont retrouvées à la Bourse du Travail ce vendredi après-midi pour demander une prolongation du délai de la transition. Pour Fatoumata Maïga, une ressortissante du Nord, zone en proie à une crise sécuritaire profonde depuis 2012, la prolongation est nécessaire pour permettre de régler définitivement la situation sécuritaire.
Moi, je veux la prolongation de la transition à cause de l'insécurité. Parce que Bamako, le Mali n'est pas arrêté à Bamako seulement. Dans les entourages, l'environnement de Bamako, ça, comme dans les régions, à Koutchala, Sikasso, Koutchala, vers le nord aussi, ça ne va pas. On ne travaille pas, ça vaut 3 ans maintenant.
La même trompette est embouchée par Moussa Diara, enseignant à la retraite. Assis devant la Bourse du Travail, faisant la revue de la presse, il pense aussi que la situation sécuritaire du pays ne permet pas d'organiser des élections crédibles.
La priorité des Maliens, là, c'est recouvrer la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national. Tant que cela n'y est pas là, ce n'est pas la peine de faire des élections. Ça, c'est le comportement des politiciens. Au moment où les gens sont en train de mourir en 4e, 3e, 6e, 7e, 8e région, mais eux, ils parlent d'élections. Là, ça ne va pas. C'est le mépris pour la population.
Au four et au moulin, pour installer les participants qui arrivent en masse, Fatoumata Traoré est d'avis que 18 mois sont très peu pour poser les jalons du Mali croix chanté et voulu par le peuple. Selon elle, il faut du temps pour corriger l'état de la démocratie malienne, d'où son vœu d'une prolongation.
Aujourd'hui, tout va mal. Cette transition qui est là aujourd'hui, nous, on veut que ça soit étalé et qu'il y a beaucoup de jalons qu'on doit poser dès maintenant. Et si on ne le fait pas maintenant, après les élections, ça ne va pas être possible.
Le souhait de ces organisations est celui du shérif Dignoro qui a lui aussi appelé à une prolongation. Un regroupement de partis politiques composé notamment de l'ancien parti présidentiel, le RPM, de l'ASMA et du parti Yelema, des anciens premiers ministres, Soumaïlou Boubé Maïga et Moussa Mara, multiplient les rencontres assorties de communiqués pour demander un respect du délai de la transition. Mohamed Danyoko, VOA. Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
La République démocratique du Congo va bientôt recevoir de nouvelles doses du vaccin AstraZeneca pour élargir son programme de vaccination contre le COVID-19, stoppé depuis le 10 juillet. L'Institut national de recherche biomédicale confirme que la situation de l'épidémie n'est plus préoccupante à Kinshasa. Le nombre de cas cumulés pour les personnes contaminées est de 52 500 avec 1050 cas de décès. Par ailleurs, la Belgique a retiré la RDC de la liste rouge, le pays ayant vacciné jusqu'à 81 910 personnes. Les détails avec notre correspondant à RDC, Patrick Loupika.
L'urgence s'impose. Les tendances ont changé au sujet de la vaccination. Les Congolais sont très excités à l'idée de se faire vacciner. Les infections touchent même les enfants qui doivent prendre le vaccin. Docteur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum, coordonnateur du secrétariat technique national de la riposte à COVID-19 en RDC.
Le premier lot qui va venir en urgence, c'est AstraZeneca pour compléter la première dose que les gens avaient reçue. Au début, quand nous avons commencé notre épidémie, il y avait très peu d'enfants. Mais au fur et à mesure qu'on avance, les mères s'infectent, ce sont ces mères-là qui vont donc infecter les enfants. Certainement, on va trouver les modalités pour vacciner ce groupe d'âge.
Les aéroports RD congolais sont des vrais passoires qui favorisent les contaminations. Certains voyageurs s'opposent aux tests de COVID à la frontière. Docteur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum.
Le nombre de cas est en baisse, mais nous devons être vigilants. Nous ne pouvons pas dire maintenant que l'épidémie est terminée à Kinshasa. Non, puisque nous n'avons pas atteint le niveau zéro. On a remarqué que les voyageurs qui viennent par SN ou bien par Air France sont disciplinés. Mais ceux qui voyagent par Ethiopian ou bien par Kenya Airways et tout ça, la plupart sont donc des Congolais. Ce sont eux qui ne veulent pas se soumettre au prélèvement. La pandémie de COVID est venue en RDC par des voyageurs. C'est étonnant que parfois ce sont des autorités qui arrivent là-bas et qui ne veulent pas payer les $45 qu'on demande et qui sèment alors des ordres.
Si la Belgique a sorti la RDC de la liste rouge, certains pays européens comme la France doutent des chiffres de la RDC par manque du sérieux alors que le pays occupe seulement la 17e place des pays les plus touchés dans la zone OMS Afrique. Docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum.
Vous-même, Congolais, vous ne voulez pas reconnaître les succès de votre pays. Quand un député peut dire publiquement que la riposte ne marche pas, la riposte, ce sont des voleurs, les ambassadeurs écoutent ça, entendent ça. Alors, ils doivent faire les rapports à leur pays. Vous savez, notre aéroport, il faut passer les zones là de Tchangou, tout ça, qui ne portent pas de masque. Les Européens qui passent par là, ils disent, oh, mais comment ici, on dirait que vraiment la COVID n'existe pas. Ils n'ont pas de masque. Alors, on commence à mettre en doute nos chiffres. Je crois que la Belgique nous a retirés sur cette liste-là. Je crois que la France va donc retirer.
La troisième vague du coronavirus est moins préoccupante dans la ville de Kinshasa. Le taux d'occupation de lits est très faible, moins de 20%. C'est le début de la récréation chez les Kinois. La population relâche les mesures barrières, chose déplorable. Kinshasa, Patrick Lupica, VOA Afrique.
Les États-Unis déploient 3000 soldats à l'aéroport de Kaboul pour aider à évacuer le personnel de l'ambassade américaine en Afghanistan. Certains observateurs font des comparaisons avec l'évacuation des citoyens américains à la fin de la guerre du Vietnam le 30 avril 1975. Sandy Sen fait le point, le récit avec Yacouba Ouedraogo.
Les talibans ont pris le contrôle de beaucoup de capitales provinciales cette semaine, alors que les forces de sécurité afghanes battent en retraite. Le département d'État a fait cette annonce hier jeudi. Ned Price, porte-parole du département d'État.
En conséquence, nous réduisons davantage nos empreintes civiles à Kaboul à la lumière de l'évolution de la situation sécuritaire. Nous prévoyons réduire notre présence à une formation diplomatique de base en Afghanistan dans les semaines à venir. Afin de faciliter cette réduction, le ministère de la Défense déploiera temporairement du personnel supplémentaire à l'aéroport international Hamid Karzai. Le secrétaire d'État Blinken ainsi que le ministre de la Défense Austin ont eu l'occasion de s'entretenir avec le président Ghani pour coordonner notre planification plus tôt dans la journée. Permettez-moi d'être clair à ce sujet, l'ambassade reste ouverte et nous prévoyons de poursuivre notre présence diplomatique en Afghanistan.
John Kirby, l'attaché de presse du Pentagone, a donné plus de détails, affirmant que le premier déploiement des forces américaines dans la région va consister en 3 bataillons d'infanterie.
Ces 3 bataillons d'infanterie comprendront environ 3000 hommes et ils vont s'ajouter aux troupes qui sont déjà à Kaboul pendant que nous menons le processus de retrait. Nous avons encore plus de 650 hommes à Kaboul en ce moment. Ces 3000 vont les rejoindre là-bas.
Interrogé sur le message que ce retrait du personnel diplomatique envoie au peuple afghan, Ned Price a répondu qu'il ne s'agit pas d'un abandon. Mais certains vétérans de l'armée américaine et d'autres observateurs disent que ce retrait rapide leur rappelle l'évacuation humiliante des derniers Américains du toit de l'ambassade au sud du Vietnam le 30 avril 1975. Saigon venait de tomber aux mains des forces communistes du Nord-Vietnam. Il y a tout juste un mois, le président Joe Biden rejetait fermement cette comparaison.
Les talibans ne sont pas l'armée nord-vietnamienne. Ils ne sont pas comparables en termes de capacité. Il n'y aura aucune circonstance où vous verrez des gens être soulevés du toit d'une ambassade des États-Unis depuis l'Afghanistan.
Biden a répété à plusieurs reprises qu'il n'y a pas de solution militaire à la guerre vieille de 2 décennies en Afghanistan et a félicité les forces américaines pour avoir accompli leur mission de vaincre Al-Qaïda et d'avoir tué son chef, Oussama Ben Laden, en 2011. Le président américain a déclaré que c'est aux Afghans de se battre maintenant pour défendre leur pays contre les talibans. Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a refusé de dire si l'ambassade des États-Unis à Kaboul resterait ouverte à son emplacement actuel ou va s'installer à l'aéroport potentiellement pour être gardée par les troupes américaines.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici aux États-Unis, malgré le regain de la pandémie de COVID-19 attisé par le variant Delta, les Américains vont assister aux événements sportifs et autres festivals d'été. Saqib You Islam nous emmène à un festival mondial de la gastronomie organisé récemment à Alexandrie en Virginie, où se sont réunis des milliers de personnes. Son reportage est relaté par Jacques Aristide.
Ils sont originaires des quatre coins du globe et ont tenu à profiter de ce festival international avec au programme danse, musique et mets culinaires venus du monde entier. Décresse un Américain d'origine française.
Nous avons besoin de voir les gens apprécier les choses, danser et d'être ici pour une journée pour se mélanger.
Martha, elle, d'origine péruvienne.
C'est vraiment agréable de se réunir pour découvrir la culture de chacun et profiter de la nourriture et des danses.
La pandémie de COVID-19 est repartie de plus belle, mais après une année marquée par les restrictions, les gens sont sortis en grand nombre. David Craig est venu avec sa famille.
Je suis super excité, je suis content que cela revienne. Cela m'a tellement manqué, c'est fou.
Tammy Craig, elle, en a profité pour se faire tatouer et faire quelques emplettes.
Des achats, de la nourriture, nous avons adoré les différentes choses. C'est magnifique.
Pour les vendeurs de nourriture et les artistes, c'était l'occasion de relancer leurs entreprises touchées par la pandémie. Katea Djemot fait de la cuisine des Caraïbes.
Il n'y avait aucun festival et concert l'année dernière, donc c'était difficile pour nous. Nous ne nous attendions pas à ce que tout le monde y vienne aujourd'hui à cause du Covid. Mais nous sommes vraiment heureuses de voir que les gens y sont, tout en prenant les précautions.
Véronica fait de la danse péruvienne.
Je suis habituée à danser en présence d'une très grande foule, donc c'est génial de pouvoir à nouveau danser après si longtemps. C'est une si grande communauté.
Pour les organisateurs du festival, il s'agit de préserver et solidifier les nombreuses cultures en Amérique, mais cette année, il est également question d'aider les industries de l'hôtellerie et de l'événementiel en ce temps difficile. Corina Serbanexcu du comité d'organisation du festival.
Nous sommes si heureux et si reconnaissants envers tous ceux qui ont participé et sont venus ici aujourd'hui pour soutenir les vendeurs, pour soutenir les artistes. Et nous espérons que nous pourrons réellement vaincre le coronavirus et d'ici l'année prochaine, nous allons nous rassembler en plus grand nombre et nous amuser au maximum.
L'Around the World Cultural Food Festival est le premier grand événement de ce type tenu en plein air dans la région de Washington DC. Les visiteurs ont été invités à rester socialement distants et à suivre les directives des centres américains de contrôle et de prévention des maladies.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga,
Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.